Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer le spina bifida et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Shushanik Ovanissian. Docteur Ovanissian, bonjour.
Bonjour.
Docteur Ovanissian, vous êtes pédiatre et praticien hospitalier au sein du service de néonatalogie et réanimation néonatale de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Vous êtes notamment en charge du suivi des enfants atteints de spina bifida. Alors, docteur Ovanissian, nous évoquons aujourd'hui la prise en charge périnatale précoce de ces bébés touchés par cette maladie. Et pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, quelle est la prise en charge à la naissance pour ces enfants avec un spina bifida?
Il y a trois grands axes de la prise en charge néonatale. D'abord, c'est la fermeture chirurgicale de la lésion dorsale. Après, réalisation d'un bilan lésionnel complète. Et puis, l'organisation de la sortie de l'hospitalisation. En ce qui concerne la chirurgie de la fermeture de la lésion dorsale, le moment de la chirurgie diffère selon la forme de spina bifida. Pour les formes fermées, la chirurgie peut être décalée quelques mois, voire quelques années. Pour les formes ouvertes, ce qui est le cas de myélo-méningocèle, qui sont les formes sévères, l'intervention se fait d'habitude dans les premières 24 à 48 heures et consiste à replacer la moelle extériorisée par microchirurgie dans le côlon vertébral et à fermer la peau par-dessus, soit directement, soit par la plastique cutanée. Cette chirurgie ne permet pas de réparer la malformation. Le but de la chirurgie, c'est fermer la lésion afin d'éviter les complications telles qu'une méningite. Après, le deuxième point, c'est le bilan lésionnel. D'abord, pour comprendre le but de ce bilan, je fais un petit rappel sur la lésion malformative. Dans les myélo-méningocèles, ça veut dire le dysraphisme, les symptômes sont dus à une anomalie de fermeture de tube neural qui survient au début de la croissance embryonnaire. Faute de cette anomalie de fermeture, les tissus adjacents sont figés à l'état embryonnaire et non différenciés, ça veut dire non matures et non séparés. Ceci provoque des anomalies à deux étages, à l'étage médulaire et à l'étage cérébral. À l'étage médulaire, l'innervation qui provient de la moelle est de mauvaise qualité. Les racines nerveuses les plus souvent touchées sont les racines lombosacrées. Elles interviennent dans l'acquisition de la propreté fécale et urinaire. Ils assurent l'innervation, ça veut dire la force et la mobilité des membres inférieurs. Les anomalies à l'étage cérébral sont la conséquence d'inégalités de la croissance entre la moelle et le charnier osseux. Il existe une traction permanente sur le cerveau en développement qui provoque d'une part une ptose, ça veut dire un abaissement du tronc cérébral et du cervelet, qu'on appelle communément anomalie de Chiari 2. Après, ça provoque aussi une anomalie de la circulation du liquide cérébro-rachidien, qu'on appelle hydrocéphalie. Et après, des anomalies du développement cérébral lui-même, comme des anomalies du corps callot, des hétéropies, etc. Et bien de ce fait, la prise en charge postnatale va viser les symptomatologies de ces anomalies à deux étages. On va surveiller l'autonomie des fonctions vitales, ça veut dire la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, surveiller s'il n'a pas des apnées, des pauses respiratoires. Et en cas d'anomalie, les pallier par mise en place d'une ventilation non-invasive, par alimentation sur gastrique. Aussi, on va surveiller l'évolution de l'hydrocéphalie par des mesures de périmètre crânien. On va examiner l'enfant sur le plan neurologique et on va faire des séries d'imagerie, une échographie transfontanellaire et IRM cérébral. En cas de décompensation d'hydrocéphalie, on réalise un drainage du liquide cérébro-rachidien dans la cavité péritonéale stérile, ce qu'on appelle une dérivation ventriculopéritonéale. On évalue aussi le risque de survenue d'une infection urinaire par une échographie vésicale et rénale. Et puis, on va instaurer des sondages vésicales intermittentes assez précocement si le risque d'infection urinaire est considéré élevé. On commence aussi la prise en charge kinésithérapeutique des membres inférieurs dès la période néonatale. Après, le troisième point de prise en charge néonatale, c'est la préparation à la sortie. On travaille avec les parents sur la compréhension de la maladie, sur leur implication dans les soins d'enfants, et sur la nécessité de suivi complexe à long terme.
Et quel suivi leur proposer après la sortie d'hospitalisation?
Le suivi, la prise en charge de ces enfants des multifacettes qui restent lourdes et au long cours, si ce n'est que toute la vie. Dès la fin de l'hospitalisation, on organise une prise en charge et suivi pluridisciplinaire qui comprend un suivi neurochirurgical, orthopédique, urologique, neurodéveloppemental, rééducationnel et aussi social. Ce suivi précoce est une nécessité, d'abord pour éviter l'errance des patients, le retard de la prise en charge et donc l'installation des complications parfois irréversibles, et surtout que le cerveau est plastique dans les 1000 premiers jours de vie de l'enfant. C'est donc pendant cette fenêtre développementale des 3 premières années qu'on pourra le plus aisément stimuler les capacités de l'enfant, récupérer une trajectoire développementale la plus proche possible de l'enfant neurotypique et prévenir au minimum les surhandicaps.
Et est-ce qu'on peut guérir de cette maladie?
Malheureusement, non. À ce jour, c'est une pathologie qui reste incurable.
Et quel est l'intérêt de ce que vous expliquiez un petit peu plus tôt, la prise en charge pluridisciplinaire?
Le but de la prise en charge est d'éviter les complications, de pallier l'handicap et ralentir l'évolution naturelle de cette pathologie qui est évolutive, c'est-à-dire qui s'aggrave avec la croissance. Les grands axes de la prise en charge sont urinaires, anorectales, neuro-orthopédiques et la prise en charge de réadaptation, ça veut dire l'amélioration de la qualité de vie. L'intérêt de la prise en charge urinaire, c'est préserver le haut appareil urinaire, ça veut dire la fonction rénale, et la paroi vésicale. Et puis, obtenir une continence urinaire sociale, ça veut dire une propreté socialement acceptable à l'âge physiologique. Et on arrive à nos objectifs en assurant une fonction de réservoir à basse pression à la vessie. Et pour ça, on met en route un traitement médicamenteux assez précocement. Et si le traitement médical n'est pas suffisant, on réalise une chirurgie d'agrandissement de la vessie. Par la suite, il faut faire attention à la hyperréactivité du détrusor. On le traite par les médicaments. On va dépister les troubles de la compliance par des bilans urodynamiques et si c'est le cas, il faut assurer une vidange vésicale satisfaisante, régulière, complète et à basse pression par des sondages intermittents. L'intérêt de la prise en charge des troubles anorectaux, c'est d'obtenir une continence fécale sociale à l'âge physiologique, comme la continence urinaire, et réduire la fréquence des infections urinaires, surtout chez la fille. Et pour ça, il faut optimiser le vidange colorectal spontané ou provoqué pour lever la stase tercorale par des traitements médicamenteux continus de la constipation. Et puis, il faut faire une éducation à la propreté à l'âge normal. Et si besoin, on réalise aussi évacuation colorectale régulière par lavement évacuateur à l'eau. L'intérêt de la prise en charge neuro-orthopédique est basé sur deux axes. D'abord, il faut maintenir la souplesse articulaire et éviter la déformation de l'axe du corps. En fait, le déséquilibre musculaire périarticulaire génère des rétractions des parties molles, puis des déformations osseuses. Et pour ça, on met en route assez précocement une prise en charge kinésithérapeutique. On met en place des attelles de posture nocturne et diurne en faisant attention aux escarres, des plâtres de correction progressive. Et après, on peut être obligé de réaliser libération des parties molles, transfert musculaire, osteotomie correctrice en fin de croissance. Au niveau de rachis, on utilise des corsets et des fois arthrodèses. Et le deuxième axe de prise en charge neuro-orthopédique, c'est de pallier le déficit musculaire pour améliorer la fonction. Et pour ça, on utilise les attelles, on met en place des aides techniques des membres supérieurs. Et après, surtout, le fauteuil roulant manuel qu'on met en place rapidement pour favoriser une socialisation optimale. L'intérêt de la prise en charge de réadaptation, c'est de faire maximum possible pour améliorer la qualité de vie. Et pour ça, on surveille le quotidien de l'enfant en intervenant, si nécessaire, dans l'organisation du mode de garde, dans la scolarisation adaptée en milieu ordinaire, par des aides humaines et aides techniques. On va faciliter aussi l'accession aux loisirs de ces enfants, qui est essentielle pour leur socialisation et de bien-être, et aussi pour la prévention du surpoids. On va faciliter l'accès aux activités physiques adaptées, et il y a des consultations sport et handicap pour les enfants dans les hôpitaux pédiatriques. Et puis, on va assurer le passage de l'adolescent en milieu adulte.
Et lorsque ces enfants grandissent, docteur Ovanissian, comment est-ce que ça s'organise, cette transition enfant-adulte ?
Le passage à l'adulte, c'est la période de tous les dangers. Il faut le préparer. Parce qu'on sait que ces enfants avec myélomeningocèle ont une survie prolongée et une possibilité de dégradation de l'état de santé à l'âge adulte. Et si les structures de soins ne sont pas coordonnées, les soins sont facilement abandonnés. Et puis aussi parce qu'il y a un changement de problématique avec le passage à l'âge adulte. Les pédiatres, ils ont peu de relations avec les problématiques des patients qui sont devenus adultes en termes de sexualité, de procréation ou de projet de la vie professionnelle. En fait, il existe une différence de culture entre le monde des pédiatres et les services adultes. Les pédiatres sont branchés sur la croissance, développement physique et somatique, et ce sont les parents qui sont les interlocuteurs et les décideurs. Dans le service d'adultes, on n'est pas sur la même rubrique, on est sur l'autonomie, sur l'insertion sociale, sur la procréation. Et après, pourquoi il faut organiser ce passage? Parce que le patient devient l'interlocuteur privilégié des décisions médicales et de réalisation de ses soins. Quand est-ce qu'il faut organiser ce passage? En fait, le transfert et transition, c'est un processus souple et progressif. On peut évoquer précocement le processus de ce passage pendant le suivi pédiatrique à partir de 11-12 ans, mais on ne peut pas opposer un âge fixe pour les enfants. En fait, il faut en pratique concorder cette transition aux autres transitions de vie de l'enfant adolescent. C'est-à-dire, on essaie de concorder avec le passage transition scolaire universitaire, transition pubertaire, transition professionnelle. Et après, la troisième question, comment organiser ce passage? Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a une obligation légale de planifier le transfert dans le but de continuité des soins, par la loi de février 2005. C'est à nous de faire le lien entre services pédiatrie adulte par des staffs et consultations communes. Les pédiatres et les médecins adultes rédigent une convention et créent une équipe pluridisciplinaire, désignent un référent commun de cette transition, de ce transfert. Le dossier médical pédiatrique résumé doit être transmis aux jeunes et à l'équipe adulte avec l'accord du patient et de son représentant légal. Et par la suite, le suivi de jeunes adultes est réalisé par les médecins adultes.
Eh bien, merci mille fois, docteur Ovanissian, de nous avoir fait mieux connaître cette prise en charge périnatale précoce de cette maladie rare qu'est le spina bifida. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite !